Podcast. Destination ailleurs. Corinne Boulangier.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la première, bienvenue dans Destination Ailleurs. Notre porteur de changement ce matin est une porteuse de changement. Elle est à la fois idéaliste, concrète et technicienne. Elle s'appelle Valérie Cabanès. Elle est juriste en droit international et s'est mise en tête de criminaliser les atteintes à l'environnement. Avec l'ONG End Ecocide, elle poursuit l'objectif de faire reconnaître au niveau international la notion d'écocide parmi les crimes contre l'humanité. C'est un vaste objectif, presque une utopie qui semble atteignable aujourd'hui. S'il faut rêver le monde pour l'inventer, notre invité élabore un cadre juridique international pour son monde rêvé. Bienvenue dans Destination Ailleurs.
Jusqu'à 10h sur la première. Destination Ailleurs.
La destruction des écosystèmes est devenue un crime contre l'humanité. Voilà le projet qui sous-tend l'action que vous menez, Valérie Cabanès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, vous êtes citoyenne, engagée dans l'ONG internationale End Ecocide. On va essayer de commencer, Valérie Cabanès, de manière pédagogique, de manière simple. S'il fallait donner une définition simple de l'écocide, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'écocide, c'est le fait d'endommager gravement un écosystème ou plusieurs écosystèmes avec des effets durables, des effets à long terme sur plusieurs générations. Mm-hmm. Si je peux essayer de définir l'écocide d'une façon un petit peu plus étymologique, le préfixe éco vient de oikos en grec et indique la maison, l'habitat. Et le suffixe cidé, c'est kaedo en latin et c'est le fait de tuer. Mm-hmm. Donc l'image, si vous voulez, c'est clairement qu'on est en train de tuer notre maison. À travers différents écocides dans le monde.
Cette notion d'écocide, c'est une notion qui est apparue quand et quelle est sa portée juridique aujourd'hui ?
Alors c'est un concept qui a en fait au moins 40 ans, qui a été évoqué lors de l'utilisation de l'agent orange au Vietnam en 74-75, qui était un défoliant, qui a donc détruit des forêts et qui a des répercussions encore aujourd'hui sur la santé humaine, avec des enfants qui naissent avec des déformations congénitales absolument terribles.
Et qui a été utilisé comme arme de guerre pendant le conflit au Vietnam.
Par l'armée américaine. La Commission du droit international, en fait, donc, a reconnu cet usage de ce défoliant comme un crime de guerre. Mmh. Et c'est effectivement au moment où on a rédigé l'ancêtre du statut de la Cour pénale internationale, il a été défini donc le terme d'écocide à ce moment-là. Alors, on a aussi envisagé d'utiliser le terme d'écocide pour des crimes en temps de paix, c'est-à-dire quand il y a qualifié d'une catastrophe environnementale extrêmement grave, commise de façon délibérée ou par négligence. Et ça a été discuté dans les années 90, quand on a justement rédigé ce statut de la Cour pénale internationale. Et puis en 95, le président du groupe de travail relatif à cet article spécifique a décidé en une nuit, en fait, de façon unilatérale, de retirer cette qualification en temps de paix sous la pression de différents États pollueurs, dont la France. Et donc la notion d'écocide en temps de paix a disparu à ce moment-là. Et nous cherchons aujourd'hui à la faire reconnaître à nouveau et à l'inscrire dans le droit international.
Donc si je vous comprends bien, Valérie Cabanès, aujourd'hui cette notion d'écocide, donc d'atteinte notoire à l'environnement, avec éventuellement des conséquences durables pour la planète forcément et pour ses habitants, c'est une sous-catégorie d'un crime de guerre quelque part.
C'est une sous-catégorie d'un crime de paix en fait, puisque la Cour pénale internationale instruit des crimes qu'on appelle les crimes contre la paix, qui sont le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression. À l'heure actuelle, il y a 4 qualifications, donc nous demandons à ce qu'un 5e crime soit reconnu, qui soit le crime d'écocide, quand il s'agit d'une atteinte donc à l'environnement qui a, comme vous le disiez, une répercussion sur la santé humaine, sur plusieurs générations et sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc on n'est pas du tout en train de parler d'un crime quand on détruit une fourmilière en marchant dessus. Soyons très clairs, c'est vraiment une reconnaissance internationale d'une problématique qui est réelle aujourd'hui, qui est une vraie menace à la paix et à la sécurité humaine, à savoir que nous détruisons à grande échelle des écosystèmes dans le monde. En détruisant une biodiversité, on est en train d'atteindre un seuil irréversible de destruction de biodiversité qui va nous conduire vers une extinction des espèces. On voit depuis déjà maintenant 2 mois dans la presse en permanence des rapports qui nous rappellent à cet événement-là. Parle de l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'en 200 ans, l'homme a réussi à modifier totalement la planète. Et puis bien évidemment, nous sommes dans cette fameuse année 2015 du sommet climat qui nous montre aussi que cette destruction environnementale par une pollution liée à un usage excessif des énergies fossiles a en plus des répercussions donc sur le climat et va déstabiliser des régions entières qui vont devoir s'adapter. Voilà, donc on a 3 phénomènes concomitants actuellement qui nous poussent vraiment à vouloir agir sur le droit international, à savoir le réchauffement climatique, la pollution aux énergies fossiles et la raréfaction des ressources en général, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient minières, qui vont effectivement déstabiliser probablement le monde dans les 100 prochaines années et qui nécessitent aujourd'hui de responsabiliser certains acteurs.
Voilà, l'objectif in fine de cette reconnaissance d'écocide au plan juridique international, l'objectif c'est d'engager la responsabilité des dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, industriels. Mais cela sous-entend, Valérie Cabanès, qu'aujourd'hui il n'existerait donc aucun moyen légal, juridique, d'attaquer la responsabilité, d'engager la responsabilité des pollueurs-payeurs. Pourtant, si l'on se penche sur le passé, on sait qu'il y a eu le procès de l'Erika, il y a eu le procès Chevron, par exemple. En quoi la législation aujourd'hui est insatisfaisante, puisque vous voulez la faire évoluer ?
Vous l'avez très bien dit, le procès de l'Erika, c'est un très bon exemple, mais j'en ai d'autres. Hein. Il y a l'affaire du Probokoala à Abidjan, il y en a plein. Il y a TEPCO et Fukushima au Japon. Si vous voulez, à chaque fois, même quand il y a eu un procès suite à une catastrophe environnementale ou sanitaire, ce sont les sociétés mères qui ont été condamnées. En aucun cas, comme vous le disiez, des dirigeants. Donc on n'est pas sur du droit pénal, on est sur du droit civil, d'accord, même s'il est international, même si ce sont des cours de justice internationale qui peuvent parfois être mobilisées sur le sujet. Et surtout, les amendes qui ont été données dans ces conditions-là sont totalement ridicules et absolument pas, si vous voulez, coercitives, contraignantes pour ces sociétés et ne les arrêtent pas. Mmh. Alors, je vais vous donner des exemples très clairs. Si l'on prend par exemple l'affaire du Probokoala, donc je vous rappelle, c'est un bateau de la société Trafigura qui a déchargé au port d'Abidjan 581 tonnes de déchets toxiques dans le port. Et ça a intoxiqué plusieurs milliers de personnes. Ils ont été condamnés à une amende d'1 million d'euros. Mmh. Pour manquement à leur obligation de révéler la nature des déchets, sachant que leur chiffre d'affaires annuel est de 73 milliards de dollars.
Bagatelle pour eux, quoi.
Est-ce que vous croyez vraiment une bagatelle, hein? Pareil pour l'Erika, Total a été condamné à 300 millions d'amendes pour un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Donc on voit aujourd'hui que ces peines ne sont pas contraignantes et ne peuvent pas responsabiliser suffisamment donc ces multinationales pour les mettre en situation de se poser des questions sur leurs choix. Et si on a une possibilité juridique pénale de pouvoir poursuivre des dirigeants, que ce soit un patron de multinationale, mais ça peut être aussi un conseil d'administration, mmh, ou un chef d'État, comme on peut le faire pour un génocide, ces personnes-là seront en capacité, en particulier dans une multinationale et face à un lobby fort des actionnaires, de dire moi, patron, CEO, PDG, je ne prends pas la responsabilité, par exemple, d'aller forer en Arctique, oui, parce que selon ce droit international pénal nouveau qui reconnaît le crime d'écocide, je peux être poursuivi. Et je prendrai l'exemple, par exemple, de TEPCO et de ce qui s'est passé à Fukushima. Si on sait aujourd'hui qu'il y a eu une négligence, on a construit un mur de protection du réacteur de Fukushima de 10 mètres seulement quand il était préconisé dans le rapport initial d'en construire un de 13, est-ce qu'on aurait eu les mêmes conséquences, sachant que cette décision a été faite pour des raisons budgétaires?
Oui.
Donc là, on voit que la décision d'un PDG peut faire la différence et surtout donc nous amener vers un nouveau comportement mondial et une réorientation des investissements vers les énergies vertes.
Oui. Valérie Cabanès, quelque part, avec cette reconnaissance de crime d'écocide, engageant donc, comme vous le disiez, la responsabilité des dirigeants, on pourrait avoir un double bénéfice. Non seulement pour les dirigeants qui généreraient un écocide, ils seraient directement engagés, mais de la même façon, ça les protégerait aussi quelque part. Ça leur donnerait la possibilité, quand en âme et conscience, ils estiment qu'ils subissent une pression de leur environnement pour prendre une décision qui leur semble pas tout à fait la bonne, ils auraient un peu plus de marge de manœuvre pour résister à la pression d'un conseil d'administration, par exemple. Ce serait tout bénéfice pour tout le monde, quelque part.
Exactement. Et c'est vraiment pour nous, si vous voulez, une loi qui est là pour prévenir. On ne cherche pas, on ne cherche pas à punir à travers la promotion de cette loi, on cherche à prévenir. Si vous voulez, si on arrivait à appliquer à l'échelle internationale un principe de précaution, cela permettrait d'encourager le droit vers une transition énergétique globale. Vous preniez l'exemple effectivement des grands patrons qui ne sont pas maîtres en fait à bord. Hein. Mm-hmm. Vous voyez qu'aujourd'hui 775 milliards de subventions en 2012 ont été attribuées à l'exploration, la production, l'utilisation des énergies fossiles, contre 101 milliards seulement pour les énergies vertes. Ce qui veut dire concrètement que c'est tout un modèle, c'est tout un modèle qu'il faut reconstruire. C'est la façon dont les États décident de subventionner les entreprises, les actionnaires. Et si on était en capacité de reconnaître ce que la science nous dit, c'est-à-dire on est vraiment en train de s'acheminer vers une forme de suicide collectif, si l'économique et le politique arrivaient enfin à reconnaître cela, alors à travers cette loi, on poserait un cadre légal qui nous mettrait effectivement en situation de changement total de paradigme.
Destination ailleurs sur la première.
Vous écoutez la première en ce samedi matin. Notre invitée dans Destination ailleurs est une juriste spécialisée en droit international. Elle travaille au sein d'une association citoyenne internationale rassemblant des experts issus des milieux de la science, de la santé, issus aussi des milieux économiques ou juridiques. Notre invitée s'appelle Valérie Cabanès. Elle se bat pour la reconnaissance de crimes contre l'environnement, la reconnaissance de la notion d'écocide. Valérie Cabanès, c'est une chose que de le dire, mais c'est autre chose que d'obtenir cette reconnaissance. Alors dites-nous, quel est le plan de bataille de l'ONG ND Ecocide pour obtenir cette reconnaissance juridique de la notion d'écocide? Quelle est la feuille de route?
Alors oui, en effet, on a constitué un think tank en octobre dernier. Donc nous avons organisé un grand événement sur Bruxelles, justement, qui réunissait des experts internationaux de façon à pouvoir, d'une part, expliquer le concept d'écocide au grand public et aux médias, et d'autre part, fédérer justement ses forces, fédérer ses spécialistes du droit international, du droit pénal international, du droit de l'environnement, du droit des générations futures. Certains qui sont aussi des scientifiques, comme le professeur Belpomme, qui a lancé il y a 10 ans l'appel de Paris contre la pollution chimique, ou Gilles-Éric Serralini, qui, avec le pôle risque de Caen, travaille vraiment sur la sécurité environnementale. Toutes ces personnes-là ont décidé de nous rejoindre de façon à travailler ensemble sur, d'une part, la rédaction d'une proposition d'amendement au statut de la Cour pénale internationale, ce qui est le statut de Rome. Mm-hmm. Et d'autre part, diffuser, médiatiser des articles de la recherche sur le concept d'écocide et aussi sur comment le monde pourrait être construit si cette loi un jour était effectivement intégrée au statut de Rome, c'est-à-dire travailler sur la transition écologique, sur les solutions, très concrètement. Donc ce groupe de travail, depuis octobre maintenant, il y a des personnes qui sont en Australie, aux États-Unis, qui sont en Afrique, qui sont aux Pays-Bas, et qui travaillent ensemble sur une plateforme internet pour pouvoir échanger et rédiger ensemble cette proposition d'amendement. Parallèlement à cela, en ce qui me concerne par exemple, je suis en charge du dossier diplomatique, c'est-à-dire d'aller négocier avec des gouvernements pour essayer de trouver un État qui accepterait de porter ce projet d'amendement.
Parce que c'est ça un point important, il suffirait d'un État qui porte la question pour que ça passe, en fait.
Alors, en ce qui concerne la Cour pénale internationale, oui, en fait, si vous voulez, il y a 123 États dans le monde qui ont ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Sur ces donc 123 pays, il suffit d'un seul État pour présenter à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, un projet d'amendement. Et il a, quelque part, l'obligation, dans ces cas-là, de convoquer une assemblée des États parties, signataires du statut, pour leur proposer cet amendement. Et là, il faut que les deux tiers, donc à l'heure actuelle 82 États, acceptent cet amendement pour qu'il soit intégré dans le statut de Rome. Alors comme ça, ça paraît assez complexe. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est très intéressant avec la Cour pénale internationale, à l'inverse des Nations Unies, vous savez que quand on propose une convention internationale, d'une part, elle n'a pas forcément de valeur contraignante. D'autre part, s'il y a une volonté d'agir, il faut que le Conseil de sécurité, qui en fait est détenu par qui ? Par les grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale et les plus grandes puissances du monde, acceptent d'accord, de mettre en œuvre cette résolution. Dans le cadre de la Cour pénale internationale, il y a une forme d'indépendance et il y a une représentation absolument historique des pays les plus démunis de la planète. L'Afrique est surreprésentée au sein de la Cour pénale internationale. Les États insulaires, les États victimes à l'heure actuelle du changement climatique sont très bien représentés au sein de la Cour. Et les États-Unis, par exemple, ne le sont pas. La Chine n'a pas ratifié, les États-Unis n'ont pas ratifié. Si ces États-là arrivent à comprendre qu'on leur offre un outil extraordinaire de protection, puisque c'est quand même eux qui sont, un, victimes de prédation des ressources par les pays les plus riches, deux, des difficultés les plus grandes d'adaptation au changement climatique. Donc, si ces États-là arrivent à sentir qu'ils ont vraiment une possibilité d'être bien protégés, il est plus que probable qu'on en trouve 81 ou 82 États.
D'accord.
Et ça veut dire que sur ces territoires, sur leur territoire, l'écocide sera interdit. Donc, si une multinationale, même si elle a une origine américaine, commet un écocide sur un territoire d'un pays qui a ratifié le statut de la Cour pénale internationale, il peut être poursuivi par ce territoire, hein, par cet État-là. Et là, donc, il y a effectivement une possibilité de mieux contrôler le comportement des multinationales dans le monde. Et puis, c'est aussi une façon, même pour nous, hein, citoyens européens, on revendique le fait que dans la situation actuelle de négociation de traités transatlantiques, États-Unis-Europe, Canada-Europe, Europe-Afrique, ces traités transatlantiques vont permettre à des multinationales de porter plainte contre des États quand ils freinent leurs intérêts économiques. Quelle est la solution aujourd'hui pour pouvoir se défendre face à ça? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
C'est-à-dire qu'on est dans un monde où aujourd'hui les multinationales sont en train de prendre totalement le pouvoir, et le pouvoir politique et le pouvoir juridique. Donc il nous semble vraiment impératif d'agir.
Oui, et est-ce que c'est un sentiment d'urgence qui trouve écho chez des partenaires éventuels? En l'occurrence, est-ce qu'il y a des pays qui sont prêts à vous suivre?
Alors, pour vous rassurer, sachez qu'il y a déjà plusieurs États qui nous ont contactés. La République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire. J'ai rendez-vous lundi matin avec le secrétaire de cabinet du Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui sont particulièrement attentifs à ce qu'on est en train de faire, qui proposent des juristes pour travailler avec nous et participer à la rédaction de l'amendement. Nous avons des relations avec les îles Marshall, avec les Philippines, avec la Bolivie. Donc voilà, l'Équateur, il y a plusieurs États dans le monde qui sont intéressés par ce que nous sommes en train de faire.
Toute chose, Valérie Cabanès, qui finalement, même si l'ambition est énorme, même s'il semble très compliqué d'y arriver, l'objectif vous semble atteignable quelque part?
Oui, l'objectif me semble atteignable parce que, comme vous l'avez dit, finalement, le système est assez simple. Il nous faut un État. Cet État, nous espérons donc avoir une confirmation d'ici 2015, décembre 2015, de façon à ce que, symboliquement, pendant la conférence climat de Paris, cet État porte auprès de Ban Ki-moon une proposition d'amendement que l'on aura préparée d'ici là. Nous espérons qu'en 2016-2017, une conférence des partis puisse se réunir, discuter de cet amendement, le retravailler éventuellement, l'adopter, et je crois qu'il y a une telle urgence aujourd'hui que cela serait plus que bienvenu. Et d'ici 2017-2018, je dirais entre 2017 et 2020, nous espérons vraiment que le crime d'écocide sera enfin, après 40, 50 ans, enfin reconnu. Je crois que le temps est venu à ce crime d'être enfin reconnu par la scène internationale. Nous ne l'avons pas inventé, il est là depuis très longtemps. Et vous savez que le droit est long à se mettre en œuvre. La Cour pénale internationale, elle a mis 30 ans se mettre en place. Mais elle a le mérite d'exister aujourd'hui et elle démontre qu'on peut faire avancer le droit encore.
C'est vraiment un travail de très très long terme que vous menez en relais, hein, avec ceux qui avant vous l'ont mené et peut-être ceux qui devront le poursuivre après aussi. À titre personnel, Valérie Cabanès, vous êtes, je pense, juriste spécialisée dans les affaires internationales, c'est cela?
Alors oui, je suis juriste en droit international et spécialisée dans les droits de l'homme. Je me suis beaucoup investie d'abord pendant plusieurs années donc sur les droits de la femme, les droits de l'enfant, puis sur les droits des peuples autochtones. Et c'est vrai que à travers les 40 pays dans lesquels j'ai séjourné, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler des droits humains sans les relier au droit à un environnement sain.
Oui.
Parce que, si vous voulez, sinon, vous êtes toujours en train de travailler sur une problématique qui, à un moment donné, par exemple la pauvreté, va être en relation avec l'environnement de ces personnes-là. Et il me semble impératif de revenir à ce que la déclaration de Stockholm en 72 a bien posé, qui est que l'on doit aujourd'hui reconnaître ce lien fondamental qu'il y a entre droits de l'homme et droits de l'environnement, et que c'est quand l'homme aura justement reconquis cette place qu'il a dans la nature, à savoir qu'il est interconnecté à la nature et qu'il ne doit pas se positionner comme un gestionnaire du monde, mais plus, je dirais, comme un chef d'orchestre, alors peut-être qu'on arrivera à mieux, nous, nous respecter tout en respectant le monde dans lequel on est.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un message qui passe bien auprès des citoyens. Et vous le disiez tout à l'heure, cette campagne que l'on mène de façon diplomatique, juridique, elle doit être portée par les citoyens, elle doit être revendiquée par les citoyens du monde. C'est pour ça qu'on a mis en place une pétition internationale sur notre site, indécocide.org, un grand appel international justement pour revendiquer donc une Cour pénale internationale de l'environnement et de la santé. Nous espérons que pendant la conférence climat, nous pourrons amener un maximum de signatures à M. Ban Ki-moon pour lui démontrer qu'il y a une idée, comme vous le dites, qui est en œuvre depuis longtemps et qui est en train de se construire petit à petit, mais que cette idée-là, elle est portée par les citoyens du monde.
Elle fait écho évidemment à un besoin fortement exprimé par les citoyens du monde. Par parenthèse d'ailleurs, sur le site internet la première.be, les pages consacrées à cette émission Destination Ailleurs, eh bien je publie à l'instant tous les liens qui permettent d'en savoir davantage et d'accéder notamment à ce site Indécocide dont vous parlez. Valérie Cabanès, même si on l'entend, et sans doute c'est tout à votre honneur, il y a une volonté d'y croire, une envie d'y croire, il faut bien reconnaître qu'au-delà des difficultés techniques, juridiques que vous évoquiez, la vraie difficulté, elle est sans doute économique. Elle est liée à notre modèle aujourd'hui qui fait que la plupart des décisions que nous prenons, que prennent nos décideurs, elles sont liées à des intérêts économiques. C'est là la vraie cause du problème finalement. Et sur ça, comment peut-on agir ?
Alors c'est là où justement on essaye de démontrer à travers justement ce think tank qui va réunir des sociologues, des scientifiques, des biologistes, des écologues, des chercheurs par rapport à la transition énergétique, on essaye de démontrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas un danger pour l'économie, que simplement il faut que l'économie réoriente ses investissements, investisse massivement dans des technologies et des énergies qui sont durables, parce que on essaye de pousser, hein, on est là pour pousser à aller plus vite, parce qu'on voit le mur arriver très rapidement. Je vous le disais, le seuil de biodiversité, on pensait l'atteindre en 2050. On pensait que le seuil irréversible de chute de biodiversité serait 2050. On vient d'apprendre que finalement, c'était en janvier 2015. Mm-hmm. Donc, la situation s'accélère. On sait aujourd'hui que le changement climatique est en train de provoquer une fonte des glaces qui, elles-mêmes, engendrent des émissions de méthane qui deviennent 10 fois supérieures à ce qu'on imaginait, sachant que le méthane est 23 fois plus polluant que le CO2.
Oui, ce sont des mouvements qui s'accélèrent et qui s'additionnent. Mm-hmm.
Voilà, on voit que le niveau de la mer cette année, finalement, a augmenté beaucoup plus vite que ce que l'on s'attendait. Donc, il est vraiment impératif que nous soyons là un petit peu comme Jiminy Cricket à essayer de pousser finalement à une situation qui de fait va à un moment donné s'imposer elle-même. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que je crois qu'on ne pourra pas échapper à une régulation, à un changement de modèle économique, à une régulation juridique de l'économie. Mais nous essayons simplement de faire
de
en sorte que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, de l'accélérer parce que nous sommes très très inquiets.
Voilà. Valérie Cabanès, une toute dernière chose. Si on devait, pour terminer sur une note positive, se quitter sur un rêve, quelle serait la première petite victoire concrète sur le terrain dont vous pourriez rêver une fois que cette notion juridique d'écocide, comme vous le souhaitez et vous le portez, aurait été reconnue ? Quelle serait la première chose que vous voudriez pouvoir afficher sur le tableau des victoires ?
Vous voulez dire, par exemple, quel type de projet nous pourrions arrêter ?
Oui.
Oui, parce qu'en fait, justement, c'est l'objet justement du projet que l'on est en train d'écrire, c'est même de donner la possibilité à des juges, parce qu'ils sont saisis, de mener une instruction qui permettrait de stopper des projets écocidaires avant que l'écocide soit commis. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. C'est de mettre en place une véritable prévention. Si je prends par exemple le grand barrage de Belo Monte, cœur de l'Amazonie, à l'heure actuelle, qui est un méga barrage, le troisième plus grand barrage du monde, qui est en train de dévaster totalement cette forêt primaire qui est un des plus grands poumons de la planète, qui a un impact sur les populations autochtones qui sont les gardiens, les ancêtres de nos savoirs traditionnels, même en médecine, et qui est un cheval de Troie pour des exploitations minières, pour des cultures extensives de bétail, de soja. C'est ce type de projet-là, on pourrait enfin avoir un outil pour l'arrêter.
Avant même qu'il existe, parce qu'il a un potentiel écocidaire.
Avant même qu'il... Oui, et ou en tout cas, si vous voulez, là, à l'heure actuelle, par exemple, il est en train de se construire, mm-hmm. on aurait la possibilité de stopper
D'accord.
Et de mener des enquêtes indépendantes d'études d'impact, parce que les bureaux d'études d'impact environnemental aujourd'hui sont toujours financés par les multinationales ou les entreprises qui les commanditent, parce que par exemple le Brésil a été condamné par la Cour internationale des droits de l'homme, aux États-Unis, par les Nations Unies directement à Genève, par James Anaya qui est rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. Toutes ces grandes instances internationales ont demandé au Brésil de ne pas construire ce barrage. Ils le font quand même et il n'y a aucun moyen de les arrêter. Donc voilà, ça fait partie de ce type de projet, je pense, qui pourrait être stoppé grâce à une loi internationale pénale reconnaissant le crime d'écocide.
Eh bien voilà, on va voir donc, si je vous comprends bien, un moyen d'outil préventif contre les crimes envers l'environnement et pas seulement un outil répressif.
Destination ailleurs sur la première.
Et pour aller jusqu'à 10h sur la première, je vous propose un focus à présent sur un volet de la reconnaissance juridique de cette notion d'écocide que nous n'avons pas abordé encore, c'est notre santé. Selon une partie grandissante de la communauté scientifique, certaines de nos maladies contemporaines, au rang desquelles les cancers ou les perturbations endocriniennes, sont liées à des causes environnementales. Alors la notion d'écocide pourrait donc, selon ces scientifiques, s'élargir et couvrir aussi les crimes environnementaux contre la santé. Santé humaine. Cette idée est portée notamment par Gilles-Éric Serralini qui est avec nous par téléphone. Bonjour Gilles-Éric Serralini.
Bonjour.
Gilles-Éric Serralini, juste pour vous resituer, vous avez été largement médiatisé, c'était il y a grosso modo un an et demi, deux ans de cela, parce que vous avez été à l'initiative d'une étude sur la toxicité de certains pesticides et de certains OGM, une étude qui est l'exemple même de ces divergences de points de vue qui anime la société s'agissant des questions de santé. Gilles-Éric Serralini, en quoi les aspects santé pourraient rentrer, selon vous, dans cette notion d'écocide ?
Pourquoi peut-on dire qu'on est en période d'écocide ? 1360 experts de 95 pays de l'ONU ont remarqué que nous sommes en pleine sixième extinction des espèces. C'est ce qui justifie nos conférences internationales. Un peu comme pour le climat, il y a consensus, mis à part pour quelques lobbies. Et nous avons remarqué avec le chef Jérôme Douzelet dans notre livre publié chez Actes Sud qu'il y avait des tas de poisons cachés qui sont des contaminants chimiques très durables parce qu'ils sont issus du pétrole comme des plastiques, des pesticides, des conservateurs, des additifs, etc. Et ces poisons cachés, eh bien, comme leur nom l'indique, ils nous empoisonnent à bas bruit permettant le développement des maladies chroniques, que j'appelle les maladies de la communication cellulaire, parce que nos cellules sont un web fantastique, où si on met du sable dans ce moteur de communication, eh bien on a des maladies comme des cancers, des maladies nerveuses à long terme, Parkinson, Alzheimer, mais aussi des instabilités nerveuses et des dépressions, comme on le voit chez les animaux soumis à ces polluants, mais aussi, hélas, des maladies hormonales, qui sont des malformations depuis le plus jeune âge à cause des perturbateurs hormonaux et nerveux. Vous avez une baisse de la quantité et de la qualité du sperme qui n'est pas réduite à l'espèce humaine, mais qui fait que nous avons perdu 70% en 70 ans. Ce sont les chiffres nouveaux qui sont sortis l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons remarqué aussi que sur un fœtus humain, on arrive à avoir ces cellules dans le liquide amniotique des mamans quand elles veulent faire des tests. Eh bien, il y a plus de 400 polluants collés directement sur les gènes d'une cellule. Ce qui veut dire que le système est contaminé par des produits qui sont comme du sable collant dans nos cellules et qui donnent des maladies chroniques à long terme. Il y a aussi des maladies respiratoires, etc. Nous avons donc là le début d'un écocide généralisé puisque ça touche aussi le règne vivant dans son ensemble.
Oui. Gilles-Éric Serralini, quel pourrait être le bénéfice, l'objectif de la prise en compte dans la notion d'écocide de la santé humaine ? On sait qu'aujourd'hui, les instances, qu'elles soient industrielles, politiques, qui directement ou indirectement contribuent à la production, à la diffusion, à la consommation de produits qui, pour certains, sont suspectés de faire évoluer le corps humain de manière telle qu'il le mène à sa perte. On sait que ces instances-là, aujourd'hui, trouvent le moyen de se protéger et de ne pas être attaquées comme étant responsables de dégâts majeurs sur la santé humaine. Ce sont ceux-là que vous espérez pouvoir viser à terme ?
Bien sûr. Cela ne résiste pas à la transparence. Nous sommes dans un système carnassier qui autodétruit l'humanité parce que un cancer fait augmenter le PIB, la richesse économique du pays. La souffrance fait augmenter aussi cela. Une maladie nerveuse fait augmenter cela. Le système est vicié à sa base parce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des ressources, la qualité de la santé et l'ensemble des déchets. Donc, il est complètement atypique et complètement artificiel parce qu'il a été inventé au XVIIIe siècle par un certain Adam Smith, ce calcul de la richesse du pays. Donc, nous le poursuivons par la croissance. Ce système, et nous devons inventer, cela a été fait par des prix Nobel d'économie, un nouveau système. Aujourd'hui, la transparence n'y résisterait pas. Je ne vous donne qu'un exemple concret. Si un seul pays du monde était capable de donner des analyses de sang qui lui ont permis, sur des animaux, qui lui ont permis d'autoriser un pesticide, quel qu'il soit, eh bien, on se rendrait compte qu'il n'y a rien. Rien à long terme, parce que il n'y a pas non plus à court terme, parce que ces analyses sont classées confidentielles quand elles ont lieu et les adjuvants des pesticides qui amplifient leur toxicité au moins par 1000 ne sont pas déclarés, sont confidentiels, ce qui fait que les agences acceptent des tests des entreprises, elles n'en font jamais elles-mêmes, qui ne portent pas sur le produit tel qu'il est commercialisé, mais sur un produit chimique déclaré artificiellement par l'entreprise, alors qu'elle commercialise des mélanges beaucoup plus toxiques. C'est ce que nous avons découvert en 2014, un peu de transparence et bien dépoussière ce crime organisé contre l'humanité, en quelque sorte, et la biosphère. C'est ce qu'on appelle un écocide.
Donc finalement, Gilles-Éric Séralini, si je vous comprends bien, l'écocide, il est en marche aujourd'hui, il est tout à fait démontrable, il n'y a plus qu'à trouver le moyen de donner visibilité aux éléments de preuve, finalement.
Il faut des politiques fortes pour cela, et droits. Et malheureusement, dans les grands partis qui ont été soutenus par le système économique qui a surtout tiré des profits vis-à-vis de lui-même, il y en a peu. Et ceux qui ont le courage de résister, eh bien, on les démissionne, on ne les élit plus, parce qu'ils n'ont plus ensuite l'ascendant de ces partis. Donc on doit vraiment révolutionner notre système politique pour qu'il ouvre les yeux sur le meurtre du monde.
Gilles-Éric Séralini, comment est-ce que vous rêvez l'avenir sur le plan de ces questions de reconnaissance de l'écocide pour les santé humaine? Comment est-ce que vous le rêvez et à quel délai?
Écoutez, demain, on peut décider politiquement, n'importe quel pays du monde, de mettre sur Internet toutes les données qui ont permis d'autoriser tous les produits chimiques par milliards de tonnes et qu'on jette sur la planète. Après-demain, on peut organiser l'expertise contradictoire comme en justice, au lieu, par des tribunaux internationaux et nationaux, au lieu d'avoir aujourd'hui simplement une agence compromise qui parle avec quelques experts pour dire oui, finalement, le bisphénol A doit être autorisé au lieu de ne pas l'être. Vous savez que ça a fait la une des journaux il y a quelques jours. C'est un produit plastifiant qui vient du pétrole, qui a des effets hormonaux. On l'avait mis au point comme une première pilule, puis ça n'a pas marché. On l'a mis dans tous les plastiques alimentaires et autres. On en jette des millions de tonnes de par la planète et on voudrait que ça n'ait pas d'effet estrogénique et d'effet sur le cancer. On se fiche de la tête des gens, en fait.
Ce serait un changement majeur, en effet, dans nos modes de fonctionnement actuels. C'est cette motivation, Gilles-Éric Séralini, qui vous a poussé, avec d'autres experts scientifiques internationaux, à rejoindre ce mouvement, cette organisation non gouvernementale internationale End Ecocides. Excellente journée à vous et bon week-end.